En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, la plus belle des radios d'Île-de-France en Val-d'Oise, avec sa fréquence en FM sur 98.00, web radio, 98.fr, DAB+, pour toute l'Île-de-France et sur notre appli dans le monde entier. Jacqueline Voraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Bienvenue et merci d'être les invités en direct sur IDFM Radio pour ce nouveau numéro de l'économie en direct. Cybersécurité et conformité réglementaire ne sont plus réservées aux grandes entreprises. Aujourd'hui, les TPE et PME sont tout aussi exposées aux cybermenaces et aux obligations légales, mais avec des moyens souvent limités. Alors, comment mettre en place des solutions, les solutions des plus gros à disposition des TPE PME et démocratiser des solutions jusqu'ici inaccessibles pour ces structures? C'est le défi que relève une société spécialisée en sécurité informatique en collaboration avec un cabinet d'avocats experts en droit du numérique. Et pour en parler, nous recevons Alexandre Bourry, fondateur d'Antana, société spécialisée dans la sécurité informatique, mise en place ou refonte d'infrastructures, sauvegarde, maintenance, infogérance, expert en cybersécurité, conseiller d'organisation publique et privée. Ouf ! Bonjour Alexandre.
Bonjour Jacqueline.
À vos côtés, Marion Laget, co-dirigeante d'Antana, qui partagera sa vision de la sécurité numérique sous ses angles techniques, juridiques et organisationnel. Bonjour Marion.
Bonjour Jacqueline.
Et à vos côtés, Betty Sfez, avocate du cabinet June, qui décryptera les enjeux de conformité pour les petites structures. Donc un cabinet d'avocats, bien sûr, spécialisé en droit du numérique et des technologies numériques. Voilà, digitales en tout cas. Bonjour,
bonjour
Betty. Merci à tous les trois d'être en direct jusqu'à 11h dans ce nouveau numéro de l'économie en direct sur IDFM Radio.
IDFM Radio, le média valdoisien.
Et on commence sans plus attendre, Alexandre Bourry. Alors déjà, expliquez-nous comment est née Antana et quelles motivations vous ont poussé à créer cette entreprise.
Alors, Antana est parti, déjà, je suis fils d'entrepreneur,
oui.
Pour, première chose. Mais c'est parti d'une idée de un jour, une société familiale a brûlé. Et ils étaient déjà relativement informatisés. Et je faisais déjà des programmes informatiques. Et je m'étais posé la question de dire, est-ce qu'on peut pas faire de la sauvegarde externalisée des données? Sauf que quand j'ai fait ça, j'étais dans les années 98 et c'était à l'arrivée du bug de l'an 2000. Et donc les sociétés vous voulaient beaucoup pour faire des développements pour réparer ce fameux bug. Et après quelques années, quand on s'est aperçu que le bug n'était pas si catastrophique,
mais si, c'est important,
entre guillemets,
c'est pas la fin du monde.
Et ben je suis parti sur la partie système. J'étais dans une filiale financière d'un groupe européen. Et j'ai commencé à faire de la sauvegarde là-bas, en fait. Et ma petite idée qui était pour une petite société, je me suis aperçu que ça existait déjà dans les grands groupes. J'ai juste appris à mieux gérer les choses. Et dans 2004, la société a déménagé. Donc, j'avais plus de raison de rester dans la société, déménager assez loin, en Île-de-France. Et j'ai décidé de tenter ma chance à faire cette idée que j'avais de créer des programmes de sauvegarde externalisée pour les TPE-PME. Sauf qu'en 2005, puisque c'était le temps que je monte la structure, c'était un peu trop avant-gardiste, il n'y avait pas de fibre, la DSL arrivait à peine.
D'accord.
Et l'idée d'externaliser des données était très compliquée. C'était même impossible. J'ai commencé à faire des mailings papier et j'ai eu un client. J'ai réussi à avoir un client en un an et demi, deux ans, qui m'a fait confiance et que j'ai gardé plus de 10 ans, même plus de 15 ans presque, où on faisait de la sauvegarde externalisée. Et après, de fil en aiguille, la sauvegarde, c'était compliqué. Donc, j'ai rencontré des gens, j'ai commencé à faire du dépannage classique pour des cabinets d'expertise comptable. Puisqu'ils sont plutôt assez tributaires de l'informatique. Et après, j'ai rencontré un avocat qui m'a introduit auprès des avocats. Et c'est là où j'ai plus explosé au niveau des cabinets d'avocats que cabinets expertise comptable. Maintenant, ça représente grosso modo, on va dire, 60% de cabinets d'avocats, 30% d'expertise comptable et le reste un peu de tout venant. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'informatique sauvegarde externalisée qui était déjà les prémices de la sécurité. Mmh. Et après, j'ai évolué dans la maintenance parce que j'avais pas le choix, fallait bien que je mange, faut être très honnête. Mmh. Et après, vu l'évolution qu'il y a eu dans l'informatique, j'ai repris un peu mes premiers amours d'apporter ce qu'il y avait dans les grands groupes. Donc on a apporté pas mal de solutions type des systèmes d'antivirus que les gens ne connaissent pas. On n'est pas sur des choses de grand public, on est sur des choses plutôt grande ETI et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a aussi fourni des systèmes. Là on est en train de proposer actuellement un système de un regroupement de clients pour pouvoir mettre en place ce qu'on appelle un SOC.
Ah oui, une sorte de mutualisation.
Une mutualisation, ouais, de services, parce que à l'échelle d'une TPE-PME, oui, parce que ça reste quand même nos clients, c'est des TPE-PME, on s'arrête grosso modo à 100-150 utilisateurs, ça reste de la PME. Mmh. Et ils n'ont pas nécessairement les moyens de financer ces gros systèmes. Donc nous, on est en train de négocier en groupe, en fait, on fédère nos clients. On dit voilà, on a tel projet, mais il faut qu'on soit un minimum tous ensemble pour le faire et pour pouvoir bénéficier de choses que toutes les structures juridiques, comptables, même législatives, avec les normes NIS 2, ainsi de suite, qui vont demander, si vous voulez, un peu aux normes. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé au départ.
D'accord, là, vous avez un petit peu enchaîné sur les questions que j'allais vous poser, mais donc votre Antana, c'est à la fois un constat, une opportunité, et puis peut-être aussi le fait d'avoir été avant-gardiste, ça vous a...
Alors, je commencerai plus par une passion, parce que j'ai toujours été geek, j'ai toujours aimé tout ce qui avait une prise électrique, et après...
Ça tombe bien, on en a réparé.
Exactement, mais je suis pas bon en tout. Et après, en effet, j'ai surfé un peu sur la vague et c'était pour moi une zone de jeu géniale parce que c'est tellement vaste, je peux faire tellement de choses. Maintenant, avec le temps et avec l'expérience, on s'est quand même concentré sur ce qu'on sait faire. L'informatique est devenue très vaste, on peut faire de la téléphonie, on peut faire du copieur, on peut faire ça. Nous, on reste quand même sur notre métier qui est de l'informatique, du conseil et de la mise en place. Et en revanche, on s'aide avec beaucoup de partenaires, dont par exemple en juridique avec June. Voilà, c'est chacun son métier.
Et donc aujourd'hui, Antana représente vous êtes combien de salariés?
On est une petite quinzaine et on continue à augmenter,
à grandir.
On a doublé les effectifs en 10 ans à peu près. Marion, tu...
C'est ça.
Et on n'a pas envie de s'arrêter, mais on a envie de se stabiliser avec une équipe fiable parce que c'est ce qu'on a. On a une très très bonne équipe, des gens impliqués, des gens de longue date. Et c'est un plaisir de travailler avec eux parce qu'ils font partie intégrante. Et d'ailleurs, Antana, c'est eux aussi.
C'est ça. Bon. Vous avez su leur transmettre la passion qui vous animait. Alors peut-être Marion, je vais vous poser la question puisque vous avez rejoint vous Antana après quelques années de création. Expliquez-nous aussi votre venue chez Antana.
J'ai rejoint effectivement Antana il y a 10 ans maintenant. Donc à un moment où justement toutes les problématiques numériques, sécurité numérique et cyber émergeaient. Donc c'était un besoin d'accompagner la structure sur son développement et puis renforcer justement toute cette partie structurelle, donc au niveau de l'accompagnement des clients, pouvoir être à l'écoute de leurs besoins et de tous ces problématiques qui émergeaient sur le secteur, sachant que l'ADN d'Antana, ça a toujours été d'apporter des solutions de grands pour TPE, PME, voilà. Donc issu pour le coup moi plus d'un grand groupe, c'était aussi une façon de faire la jonction entre mon expérience groupe et puis TPE PME pour le coup.
Et aucun regret d'avoir rejoint
ça,
Antana.
Non. aucun regret et beaucoup effectivement de sujets actuellement sur tout ce qui est cyber, sécurité numérique et comme dit Alexandre, une belle ère de jeu.
Oui. Très bien. Merci, merci Marion. Et puis, bah, Betty Suez, pareil, là, vous êtes maintenant partenaire, hein, si j'ai bien compris, de Antana. Donc, expliquez-nous la façon dont ça s'est passé.
Alors.
Et puis, c'est votre parcours aussi, Betty.
Oui, merci. Donc écoutez, je suis avocate au barreau de Paris depuis 18 ans maintenant. Assez vite, j'ai découvert que j'avais un goût assez prononcé pour tout ce qui touchait de près ou de loin à l'informatique. Et donc j'ai décidé d'en faire une spécialité. Et puis depuis des années, je suis amenée à travailler principalement pour les TPE, PME, justement, que ce soit côté prestataire informatique ou que ce soit PME utilisatrice de technologie. Et puis, de fil en aiguille, ma spécialité s'est fait connaître. Et puis, c'est par cet intermédiaire-là que j'ai eu la chance de rencontrer Antana. Antana qui, justement, est en capacité de fournir le volet technique et un certain niveau de conseil pour nos clients qui souhaitent pas seulement être conseillés sur le volet juridique, mais également être accompagnés sur les mesures de sécurité et les enjeux techniques. Donc, on forme un duo assez évident qui fonctionne et on est ravis de ce partenariat.
Et nous, on est ravis de vous accueillir ce matin. On marque une pause. Restez avec nous. On revient juste après avoir écouté Mika. Elle me dit. Hey!
Elle me dit, écris une chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. Elle me dit, tu deviendras milliardaire, t'auras de quoi être fier, ne finis pas comme ton père. Elle me dit, ne t'enferme pas dans ta chambre, vas-y secoue-toi et tente, dis-moi c'est quoi ton problème. Elle me dit, qu'est-ce que t'as l'air coincé, t'es défoncé ou t'es gay, tu finiras comme ton frère. Elle me dit, c'est ta vie, fais ce que tu veux, tant pis, un jour tu comprendras, un jour tu t'en. Va taper dans un ballon, tu deviendras populaire. Elle me dit, qu'est-ce que tu fous sur internet, ça va pas bien dans ta tête, regarde le temps que tu perds. Elle me dit, pourquoi tu te plains tout le temps, on dirait que t'as 8 ans, c'est pas comme ça que tu vas plaire. Elle me dit, un jour je ne serai plus là, mais c'est quand elle me dit ça qu'elle me dit un truc que j'aime.
Tu t'en voudras. Elle me dit t'es trop nul.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et ce matin nous parlons de sécurité informatique et de démocratisation auprès des TPE, PME. Alors Alexandre, vous nous en avez déjà dit un mot. Quels sont les moyens, donc vous nous avez parlé de cette mutualisation, mais plus en détail, qu'est-ce qui permet d'avoir un accompagnement comme ça de démocratisation de ces solutions de sécurité numérique?
Alors, je tourne un peu les choses différemment. Je dirais que de toute façon, les meilleurs moyens de se protéger, déjà, c'est la formation. C'est beaucoup de campagnes de sensibilisation des collaborateurs. Au même titre qu'on vous donne une voiture, vous êtes obligé d'avoir un permis. Bah, parfois, avec un ordinateur, vous pouvez faire beaucoup plus de dégâts qu'une voiture. Donc, c'est vraiment un manque de formation pour beaucoup. Et maintenant aussi, une complexité des attaques qui est devenue vraiment très, très efficace, très... passe-partout. Ouais. Comme tout est interconnecté maintenant, ça peut très bien venir d'une boîte mail. Ça, principalement, ça vient des dents. Ça passe par la messagerie. Hein. Faut pas vraiment se leurrer. Donc c'est pour ça que la campagne de sensibilisation est très importante. Mais après, tout ce qui est système d'authentification et prise de contrôle passe majoritairement dans le cloud. Les attaques frontales sur les ordinateurs, bien évidemment que ça existe. Dans ma vie, ça fait 20 ans que je suis purement dans ma société, j'en ai pas vu beaucoup, j'en ai vu.
Ah oui.
Mais de choses où vraiment la machine a été vérolée dans le sens pour l'exfiltration de données, j'en ai vu, mais maintenant on voit plus, et c'est du domaine courant, ce qu'on disait il n'y a pas très longtemps à des clients, quand on voyait sur cybermalveillance, puisqu'on est partenaire cybermalveillance, quand on avait 5 ou 6 alertes par semaine, maintenant, même tous les 15 jours, parce que bon, c'est un conglomérat, il y a plusieurs sociétés qui répondent, donc on n'a pas nécessairement toutes les alertes, maintenant c'est 5 ou 6 par jour.
Ah oui.
Donc
ah oui.
Et ça c'est la première chose. Et avant on ne voyait pas nos clients se faire avoir. Maintenant il y en a qui se font avoir.
Et même ceux dont vous pensiez qu'ils pouvaient être informés.
Parce que c'est très pernicieux. Ça passe par ce qu'on appelle du phishing. Donc oui, ça vous êtes tous. Mais c'est presque plus du spear phishing dans le sens où c'est un phishing très très détaillé. La personne qui vous contacte vous connaît.
C'est ça, un phishing ciblé.
Exactement. Donc l'email que vous recevez est 100% légitime. Ça vient bien de la boîte mail de la personne que vous connaissez. Elle vous envoie un document qui pourrait prêter à confusion si vous êtes pas bien concentré. Et c'est fini. Depuis la rentrée, on a eu 6 attaques comme ça. Et c'est imparable. Alors, il y a des outils. C'est justement les outils de CIEM, SOC qu'on essaie de mutualiser, mettre en place, servent à se prémunir ou du moins à voir les signaux faibles de ce genre d'attaque. Mais un simple antivirus sur un PC, il sert pas à grand chose dans ce type de choses puisque tout se passe dans le cloud. Donc voilà.
Mais quand vous disiez que ça vient d'une personne identifiée, ça peut même être un particulier, quelqu'un qu'on connaît personnellement.
Ça peut être un particulier. C'est souvent des partenaires professionnels.
Oui, parce que souvent on reçoit comme ça des messages. Je pense qu'on en a tous reçu sur de ministère de l'Intérieur, des finances, sa banque ou ça.
Tout ce qui est paiement pour des, voilà, des PV, des choses comme ça existe.
Livraison en ce moment, ça pullule.
C'est normal.
On n'a pas
Noël,
pu
c'est
livrer, saisonnier, voilà. Mais bon, à force, on est quand même un petit peu averti et on n'ouvre pas forcément le fichier.
Alors, parce qu'on en entend beaucoup parler dans les médias, l'ANT, les faux paiements, ainsi de suite. Maintenant, il y a aussi les péages automatiques, là, des péages sans barrière. C'est pareil. Ce genre d'attaque, les gens jouent sur la crédulité des gens. Le problème dans le monde professionnel, quand vous recevez un mail d'un collaborateur que vous connaissez, soit de votre société, soit d'un client, soit d'un fournisseur, tiens, au fait, sur dossier Intel, ça éveille les soupçons, pas les soupçons, mais c'est la curiosité. L'être humain est curieux, donc il va cliquer. Donc c'est pour ça que ça marche très bien, leurs attaques.
Mais c'est vrai que des fois, ça démange, hein. On a envie de cliquer.
Faites comme moi, quand vous voyez facture, vous cliquez pas. Et si réellement c'est une vraie facture, il vous relance. Exactement.
C'est ça. Surtout que de plus en plus souvent, je me permets d'intervenir, de plus en plus souvent, ces phishings viennent, comme disait Alexandre, d'une adresse mail existante. C'est-à-dire que si vous avez un de vos fournisseurs qui s'est fait pirater sa boîte mail, oui, vous allez recevoir un email de sa boîte réelle. Du coup, effectivement, on a tendance à être beaucoup plus crédule et donc à cliquer parce que finalement, les attaquants étant dans la boîte mail du fournisseur, ils ont déjà étudié la relation que vous pouviez avoir avec eux. On attend un RIB, une pièce jointe, ils envoient le mail. Ils font tout ce qu'il faut pour que ce soit caché dans la boîte de la personne qui expédie. Et à ce moment-là, vous cliquez sur le mail. Il n'y a pas beaucoup d'outils pour pouvoir anticiper cette situation. Donc, une fois qu'ils sont dans la boîte, c'est de pouvoir, comme disait Alexandre, identifier les signaux faibles et là, pouvoir réagir tout de suite. Ce qui veut dire, effectivement, du monitoring ou du SOC sur les machines et sur les infrastructures.
D'accord, d'accord. Et donc, merci Marion. Betty, donc quand une telle attaque arrive, la personne en question qui s'est fait attaquer, elle peut porter plainte, elle a des recours, c'est...
Oui, bien sûr, et on va même lui recommander de porter plainte. Ah oui. Donc, et effectivement, comme l'a expliqué Alexandre il y a quelques minutes, donc on est dans un monde de plus en plus numérique et digital, et donc le nombre de cyberattaques augmente. Et face à ce type de piratage informatique, le premier réflexe est de porter plainte pour la bonne et simple raison qu'en fait, ça a le mérite finalement de protéger l'entreprise qui est victime, protéger ne serait-ce que vis-à-vis de son assureur. Ça permet d'avoir une trace comme quoi on a été victime d'une attaque. Et s'il s'avère qu'il y a des dommages... ou en tout cas qu'il y a un dommage par ricochet, cela évite que l'entreprise ensuite puisse être accusée d'avoir facilité une faille de sécurité ou une attaque informatique. Donc oui, ma première recommandation, c'est porter plainte, évidemment.
Et où faut-il porter plainte ?
Alors, porter plainte, soit donc il y a des plateformes qui sont spécialisées. Tout à l'heure d'ailleurs, Alexandre en parlait. Il y a des plateformes telles que cybermalveillance.gouv.fr qui sont donc des plateformes dédiées, accessibles par tous, pour faire un signalement. Donc ça, c'est le premier réflexe. Après, autre réflexe, vous pouvez bien entendu aller déposer plainte auprès du procureur de la République. Donc vous rédigez un courrier et puis vous expliquez les faits, vous expliquez l'infraction éventuelle. Mais en tout cas, vous laissez une trace écrite. Oui, alors, en général, pour ce type de plainte, on a recours à un conseil, évidemment, mais il n'y a rien d'obligatoire. Et puis, en fonction de là où on se situe en France et du territoire sur lequel est établie la société, on a également la possibilité de s'adresser à des brigades spécialisées en gendarmerie ou en police.
Oui, il y en a de plus en plus.
Oui. Donc voilà. Donc, bien évidemment, l'objectif est d'éviter d'aller porter plainte auprès du commissariat du coin, qui de toute façon ne va pas pouvoir traiter correctement la
plainte.
Donc il y a des moyens et je vous recommande de porter plainte. Oui, bien sûr.
Ouais. Merci Betty. Oui, parce qu'en fait cette émission, elle est un petit peu là pour donner des clés à tous ceux qui nous écoutent et puis pouvoir réagir. Alors Alexandre, un de vos clients est attaqué. Qu'est-ce que vous sur ce phishing ciblé, qu'est-ce que vous faites ?
Alors comment ça s'est passé ? La cliente reçoit un mail d'un contact légitime et clique dessus. Elle met ses codes. Elle avait même la double authentification. Mais comme elle dit quand on l'interviewe après, elle fait « Mais moi, je la connais, cette personne, donc j'ai confiance en elle. » Donc, pour moi, c'est légitime. Donc, même la double authentification dans un cas comme ça n'a pas servi à grand-chose. Il faut impérativement la double authentification partout dès que ça peut l'être. Mais pour autant, si on donne les clés de sa maison, les gens rentrent. Faut pas se leurrer. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Donc là, il s'est rien passé au départ. Ça a duré quelques jours. Il s'est rien passé. Et c'est au bout d'une petite semaine, la boîte de la cliente ou les collaborateurs de la cliente commençaient à recevoir des mails un peu bizarres sur des changements de RIB sur un dossier très précis, mais vraiment très très détaillé. Et jusqu'à ce que le dirigeant trouve ça bizarre, nous contacte, fait ouais, on a eu ça, c'est étrange. Et là, on a commencé à regarder. Et en effet, la boîte de la collaboratrice était corrompue et on s'en est pas rendu compte. Donc je vais être très honnête, on s'en est pas rendu compte. Et quand on a commencé à regarder le détail de ce qui s'est passé, c'est là où on aurait dû le voir ou avoir des outils pour le voir. C'est à partir du moment où elle a cliqué, quelques minutes plus tard, elle a commencé à avoir des connexions à sa boîte mail en mode web, donc depuis l'extérieur, mais de d'autres pays.
Ah oui.
Donc ça, c'est un signal évident qu'il y a un problème. Et un outil type un CIEM avec un SOC l'aurait remonté instantanément. C'est pas cohérent que vous travaillez à Paris, vous êtes identifié, géolocalisé à Paris, et vous avez des gens qui se connectent de Düsseldorf et des États-Unis, ainsi de suite. Alors c'est pas nécessairement la Russie, je rassure. C'est,
Je disais Russie.
En tout cas, maintenant avec les VPN, on ne sait pas vraiment d'où ils viennent, mais on sait géolocaliser d'un truc. Mais et donc rien que ça, c'est un signe faible. Alors des experts diront, mais si vous activez bien les audits des systèmes de sécurité, vous auriez eu l'information. Oui. Faut juste pas oublier qu'on est donc une société où on a on a 250 clients avec pas loin de 2000 boîtes mail. Donc, si c'est bien beau d'avoir de l'information, si on ne sait pas l'interpréter, la traiter, ça n'a pas de sens. On en met tout ce qu'il faut pour avoir les logs, c'est-à-dire tout ce qui se passe, on a l'information. Et c'est pour ça que maintenant on va se faire appuyer par un outil de CIEM qui va collecter toutes ces informations, qui va agréger toutes les informations. Et avec une solution, avec une équipe de SOC qui va s'occuper de l'analyse de ces informations et réagir en fonction des différents scénarios. Par exemple, si on voit qu'une personne se connecte de l'étranger alors vous êtes à Paris, c'est un signal qui dit, oh là, c'est pas normal, qu'est-ce qu'on fait? On verrouille le compte, on désactive des choses. C'est pour donner que ce cas, mais après, c'est, le champ des possibles est énorme vu toute l'imagination des attaques qu'ils ont. Donc voilà, un peu un scénario. Donc qu'est-ce qui s'est passé après? À partir du moment où on s'est rendu compte de ça, déconnexion de tous les comptes, parce qu'on, après on a quand même beaucoup de détails. On sait où les gens sont connectés, ça s'est bien passé.
Vous avez retrouvé la trace.
On retrouve toutes les traces, parce que pour autant, on a les systèmes de traces. Mais on ne sait pas les interpréter en temps réel. On ne savait pas les interpréter en temps réel. Et donc à partir de là, c'est déconnexion des comptes, communication en interne, et en externe, de attention, on a eu tel problème, soyez vigilants, parce que faut pas hésiter à communiquer quand on a une panne comme ça, parce que on peut perdre plus de crédibilité.
C'est ça, il faut pas le garder secret.
Exactement. Parce que ça peut vraiment arriver à tout le monde. Et après, c'est une remédiation, c'est-à-dire on va quand même vérifier que sur le poste, il n'y a pas eu de choses d'exfiltration de données sur le poste. Alors en l'occurrence, il y avait hormis accès à la boîte, elle avait aucun accès de l'utilisatrice. Donc c'est, on s'en sort plutôt pas mal, mais pas d'accès au poste. Même les systèmes d'antivirus, qu'on appelle plus d'antivirus, maintenant on appelle ça des EDR ou des XDR, n'ont rien vu sur le poste puisque tout se passe en ligne.
Ah oui.
Donc voilà.
Vous êtes en train de nous dire que même si on a un antivirus, on peut être.
Il faut impérativement. Alors, on n'appelle plus ça vraiment des antivirus. Maintenant, c'est ce qu'on appelle des endpoints, mais c'est obligatoire. Il n'y a pas de. C'est une obligation d'avoir des endpoints sur des machines, même si ce que je disais tout à l'heure, il y a moins d'attaques directes sur des machines comme ce qui se passait dans les années 90-2000, mais c'est obligatoire. Maintenant, la plupart des choses se passent en cloud. On laisse tellement de choses en cloud, donc c'est presque plus simple et plus discret d'aller voir là-haut que de rentrer chez vous. Donc voilà, et après on a fait remédiation, et après on a extrait toutes les logs pour qu'elles puissent porter plainte. Et après on a débriefé avec la société, voilà ce que vous auriez dû voir, mais elle a dit mais je l'ai pas vu. Et même une vraie formation, ça prête à confusion. C'est tellement ciblé que ça prête à confusion. Et après on a donné toutes les logs pour qu'elle puisse aller porter plainte. Donc on a changé tous les mots de passe, on a débloqué tous les comptes, on a fait changer les mots de passe de toute la société, parce que malheureusement au sein de la société, comme elle n'avait pas communiqué sur la chose, ça s'est aussi propagé en interne, en fait. Il y a d'autres collaborateurs qui avaient cliqué sur le lien, puisqu'il a renvoyé. Donc, il a fallu 3 jours pour tout nettoyer.
Mais vous y êtes arrivés.
Oui, on y arrive.
Alors, oui, Marion, je vais vous donner la parole. Juste, je me fais un tout petit peu l'avocat du diable, Alexandre. Cependant, c'était une de vos clientes.
Oui.
Donc, mais elle n'avait pas, vous aviez, j'imagine, dû lui proposer ce que vous avez mis en place et elle l'avait refusé.
En l'occurrence, oui. On avait proposé le CIEM et ils sont à l'époque, ils disent, bon, à quoi ça sert? Là, c'était typiquement le cas où ça
elle
servait.
Aurait dû le faire.
Ah oui, elle aurait dû le faire. Ouais.
Marion.
Merci
Alexandre.
C'est effectivement, pour rebondir sur ce que dit Alexandre et sur votre question Jacqueline, c'est une solution de SOC qui avait été étudiée par la société Antana il y a quelques temps.
SIEM et SOC.
Oui. Donc qui pour le coup est proposée à des coûts qui sont exorbitants pour des petites entreprises et c'est la raison pour laquelle ça avait été refusé. Et ce qu'on peut tout à fait comprendre quand on est une petite boîte, hein, parfois il faut qu'on arrive à mettre justement et à trouver les outils des grands. Et qu'est-ce qui a été tiré comme conclusion d'Antana à la suite de cet épisode, c'est que toutes les protections qui avaient été mises en place ont fait leur job entre guillemets. Mais comme disait Alexandre, lorsque vous donnez la clé du château, les gens rentrent. Donc la clé du château, c'était les clés du endpoint et de la double authentification. Et donc l'étape d'après, c'était sécuriser le cloud. Donc la réaction d'Antana, ça a été de revenir justement dans nos valeurs et notre ADN et de dire on peut pas laisser nos clients, qui sont des petites boîtes comme la nôtre d'ailleurs. Et donc du coup, il faut absolument qu'on revienne sur ce sujet, qu'on retourne vers ce fournisseur qui nous avait fait des propositions qui étaient pas acceptables pour des petites boîtes. Et c'est de là qu'est né ce collectif de clients où finalement on a dit il y a tout un tas de clients qu'on doit qui sont concernés, qui n'ont absolument pas les moyens de se payer de telles solutions, parce que aujourd'hui très clairement c'est beaucoup trop cher et le modèle économique ne tient pas la route. En revanche, on a un sujet opérationnel et technique qu'il faut qu'on règle avec eux. Donc on est revenu à réellement, comme je dis, l'ADN d'Antana, et cette solution Alexandre l'avait déjà identifiée il y a pas loin de 10 ans. Elle n'avait pas été retenue. Aujourd'hui, on a repris contact avec le fournisseur, on a monté cette espèce de collectif ou de lab avec ses clients à qui on a expliqué la problématique. Forcément, vous doutez bien que le client concerné a été le premier à signer.
Bien sûr.
Et donc, c'est vraiment dans cet esprit-là de se servir de ce qui se passe en fait chez nos clients et de pouvoir mutualiser pour proposer des solutions qui leur permettent justement de se protéger à la même hauteur que les plus grands et donc aujourd'hui protéger tout ce qui est cloud, drive, etc. Et c'est dans le même esprit qu'on travaille avec le cabinet de June, puisque on est très sollicité aussi sur justement tout ce qui est conformité, réglementation. Et de la même manière, ces petites structures n'ont pas toujours les moyens techniques, juridiques ou organisationnels et financiers de répondre à des sollicitations de très grosses boîtes.
Oui, ça doit être important de pouvoir s'adresser à des experts comme vous, parce que voilà, je me mets juste à la place de votre cliente dans le cas présent. Alors Betty, pour continuer sur cet exemple là qui vient nous être donné, cette personne a dû porter plainte, mais est-ce que dans la mesure où elle avait pas mis en place tous les outils nécessaires, comment dans ce cas-là ça se passe?
Alors, comment ça se passe? C'est une très bonne question. Et pour vous expliquer comment ça se passe, je pense qu'il faut prendre un petit peu de hauteur. Et puis peut-être expliquer à nos auditeurs, finalement, quel est un peu le paysage réglementaire dans lequel ils vivent aujourd'hui. Les PME et TPME sont confrontés à un paysage réglementaire très dense. Tout comme les grandes entreprises.
Oui, c'est ça, à la même hauteur que les grosses entreprises.
Ouais. Exactement. Tout simplement parce que le législateur européen et le législateur français a pris conscience de l'état de la menace. A pris conscience qu'aujourd'hui, dans un monde numérique et digital, il y a un grand nombre de piratages informatiques et que bien évidemment, pour pallier à ça, il faut absolument être en capacité de mettre en place un certain nombre de mesures de sécurité ou de s'outiller, comme le disait à l'instant Marion. Et en fait, le législateur européen et français, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont créé des obligations. Voilà. Donc, c'est pas vous allez mettre en place un outillage si vous le souhaitez, c'est vous devez.
On doit le faire.
Vous devez le faire.
Maintenant, voilà. C'est incontournable.
Alors, bien évidemment, ces réglementations sont critiquées par certains. Néanmoins, pour ma part, je les trouve bien évidemment nécessaires, compte tenu de l'état de la menace qui a été décrit par Alexandre tout à l'heure. Et il s'avère que notre législateur ne manque pas de créativité. Voilà, ça fait quand même 10 ans que quasiment tous les 2 ans, des réglementations sont adoptées principalement sur la sécurité de la donnée, la sécurité du système d'information. Je pense que nos auditeurs ont déjà entendu parler certainement du RGPD, pour d'autres peut-être un petit peu plus aguerris de la réglementation cyber sur NIS 2, DORA, ou encore dernièrement toutes les réglementations portant sur l'intelligence artificielle. Voilà. Ces réglementations sont nécessaires, néanmoins, en pratique, elles sont difficiles à mettre en œuvre.
Oui.
Difficiles à mettre en œuvre, notamment pour les plus petites structures. Alors déjà, elles le sont pour les grandes structures, mais elles le sont également pour les plus petites structures. Et donc, de fil en aiguille, mais peut-être que c'est votre prochaine question. À force de conseiller nos clients et à force d'échanger avec Antana, on s'était dit qu'il fallait faire quelque chose pour pouvoir malgré tout accompagner ces plus petites structures dans une conformité et surtout une conformité pérenne. Voilà.
Oui,
et on a réfléchi à ce sujet-là et on est assez fiers de pouvoir proposer une offre qui nous semble conforme, pertinente et qui répond à un réel besoin et à des réelles difficultés.
Voilà. Oui, et probablement, si j'ai bien compris, à un coût tout à fait recevable, enfin en tout cas acceptable.
C'est ce qu'on essaye en
tout
cas.
C'est ce que vous essayez de faire. Merci infiniment à tous les trois pour toutes ces informations. Je propose qu'on marque une nouvelle pause. Et là, c'est avec Laurent Voulzy et son titre « Le pouvoir des fleurs ».
Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs, jasmin, lila. C'était nos divisions, nos soldats, pour changer tout ça. Changer le monde, changer les choses, avec des bouquets de roses. Changer les femmes, changer les hommes, avec des géraniums. Je me souviens, on avait des chansons, des paroles, comme des pétales et des corolles, qu'écoutaient. Le parfum, imagine le parfum. L'Éden, le jardin, c'était pour demain. Mais demain c'est pareil, le même désir veille là tout au fond des cœurs. Tout changer en douceur, changer les âmes, changer les cœurs avec des bouquets de fleurs. La guerre au vent, l'amour de vent. Grâce à des fleurs d'échange. Les couleurs vives, et que même si l'amour est parti, ce n'est que partie remise. Par les couleurs, les accords, le parfum, changer le vieux monde pour faire un jardin. Tu verras le pouvoir des fleurs.
Il y a une idée pas dans mon air.
Changer les âmes, changer. Avec les bouquets de fleurs, la guerre au vent, l'amour devant.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Merci d'être resté avec nous. C'est toujours l'économie en direct sur IDFM Radio. Avec à mes côtés aujourd'hui Alexandre Bourré, fondateur d'Antana, une société spécialisée dans la sécurité informatique. Marion Laget, co-dirigeante d'Antana, qui nous partagera sa vision de la sécurité numérique sous ses angles techniques, juridiques et organisationnels. Et Betty Sfez, avocate du cabinet June, un cabinet spécialisé en droit du numérique et des technologies. Alors, je m'adresse à vous trois parce que là, vous venez de nous donner un exemple très concret avec votre vision précise chacun. On a donc abordé la technique, le juridique, peut-être aborder l'organisationnel. Donc Marion ou Betty, vous aviez quelque chose à rajouter, je crois, Betty, sur les obligations.
Oui, tout c'est à ça. Fait, oui. Effectivement.
J'ai retrouvé le fil. c'est le pouvoir des fleurs qui m'avait emmené ailleurs.
Non, et effectivement, donc ce qu'on voulait peut-être, c'était préciser un petit peu le cadre réglementaire, puisque tout à l'heure on expliquait que les PME, TPE et les grands comptes étaient soumises à un grand nombre d'obligations, et il me semblait intéressant pour les auditeurs peut-être d'illustrer ces différentes obligations, toujours en matière de sécurité numérique. Donc j'expliquais tout à l'heure qu'il y a des réglementations qui ont des noms barbares, qu'on appelle le RGPD, NIST 2, DORA ou IA Act. Grosso modo, si on devait faire une synthèse, voilà ce qu'elles imposent aujourd'hui à nos entreprises et à nos entrepreneurs. Elles imposent déjà, premièrement, de se former à la sécurité informatique. Ce qui est incontournable, c'est indispensable, de former les membres du CODIR, de former ses collaborateurs, de former aussi bien les dirigeants que les salariés. Et cette formation, elle est indispensable, notamment sur des enjeux liés au phishing dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, ces formations, elles imposent également, de manière plus globale, de mettre en place des mesures à la fois techniques, organisationnelles et juridiques. Sur le volet technique, Alexandre, je pense, ou Marion vont pouvoir beaucoup mieux rebondir que moi. Mais sur le volet, par exemple, organisationnel et juridique, organisationnel, c'est à s'assurer d'une bonne gestion des risques. Et pour ce faire, ça implique de mettre en place des process, des procédures et toute la documentation associée de gestion des risques. Et notamment, pouvoir éditer des chartes informatiques, pouvoir éditer des PSSI, pouvoir éditer des plans de remédiation. Et ça, vous rendez bien compte qu'au-delà du fait que ce sont des noms un peu barbares, mais on peut comprendre que c'est un petit peu difficile à appréhender pour une petite structure.
Oui, et puis même à réaliser.
Physiquement,
enfin, je veux dire concrètement.
Concrètement.
Ça doit prendre un temps fou. Ouais.
Et puis sur le volet plutôt juridique, ce qu'il faut comprendre, c'est que également les entreprises ont ces obligations, peut-être pour certaines, d'améliorer leurs contrats et qu'à travers leurs contrats, elles ont l'obligation d'offrir ou de fournir un certain nombre de garanties visant à sécuriser leurs propres clients, leurs propres partenaires. Mais également, elles ont des obligations de notification de failles de sécurité, de signalement. Donc voilà, il y a tout un panel d'obligations et c'est vrai que souvent nos clients, les entrepreneurs nous disent mais en fait on ne sait pas par où commencer.
En vous écoutant, c'est exactement la réflexion.
Non mais c'est vraiment la liste du Père Noël quelque part. C'est un sujet d'actualité et on ne sait pas par où commencer. On ne sait pas ce qui nous est vraiment imposable. Est-ce que le législateur a pris en compte le fait qu'on est une plus petite structure? La réponse est oui. Néanmoins, on reste sur quelque chose d'assez contraignant. Et puis surtout, mais ça je pense qu'on en parlera peut-être après, c'est que si de toute façon une entreprise ne fait pas l'effort d'avancer dans sa conformité, c'est simple, elle risque de perdre des parts de marché. Pour la bonne et simple raison que ces réglementations-là sont construites systématiquement de la même façon, à savoir qu'elles vont imposer aux grandes entreprises de s'assurer de la sécurité de leur chaîne d'approvisionnement. Et donc, au final, ça implique quoi ? Ça implique de pouvoir reporter une partie de leurs obligations sur toute la chaîne de sous-traitance. Donc, quand bien même on est une petite structure, on est un cabinet de consulting de quelques indépendants, imaginons, eh bien, on va se voir imposer ces obligations-là pour pouvoir remporter des parts de marché et pour pouvoir travailler avec des grands comptes.
Oui, donc, bah c'est très clair ça. En vous écoutant, je fais un parallèle avec les entreprises de bâtiment qui ont aussi des sous-traitants et en fait toute la chaîne est concernée quand il y a un préjudice en fait. Merci Betty, c'était très clair. Alors donc vous Marion et Alexandre, vous avez mis sur pied donc une méthode, enfin en tout cas un produit qui permet de répondre à ces obligations d'une façon plus légère.
Les obligations techniques et les obligations
techniques, juridiques, organisationnelles.
En fait, c'est effectivement de manière très globale. Hein. C'est que, comme on le disait tout à l'heure, notre idée, c'est vraiment d'accompagner les sociétés et de faire du conseil. Hein. Sur de la pédagogie même, sur tous ces différents sujets, et que ce soit le volet, on a parlé tout à l'heure, Betty parlait du volet formation par exemple, donc de pouvoir être à même d'apporter non pas nous-mêmes la formation, parce que comme le disait Alexandre, on est vraiment très concentré sur la technique et nos équipes sont à 80% des techniciens ou des ingénieurs, mais en tous les cas d'être à même d'apporter un partenaire ou quelqu'un avec qui la société pourrait être mise en contact pour pouvoir travailler sur ce point-là. Et c'est dans cet esprit-là qu'on s'était rapproché du cabinet June qui nous accompagnait, pour le coup, nous, en TANA, plus pour des sujets de contractuels ou autres. Et c'est lorsqu'on a pris conscience que finalement nos clients nous contactaient, par exemple, dans le cadre d'un appel d'offres et nous disaient « Est-ce que vous pouvez m'aider à répondre à toute cette grille de questions techniques ?» Parce qu'il y a le volet juridique, le volet organisationnel et le volet technique. Et donc le volet technique, c'était est-ce que vous avez bien mis en place telle ou telle solution technique, notamment Alexandre évoquait le SOC tout à l'heure, donc tout ce qui va être monitoring, est-ce que vous avez un firewall, comment est-ce qu'il est géré, est-ce que vous avez une société qui le gère, bref, tout un tas de questions. Et finalement, ces questionnaires, ils étaient extrêmement lourds pour un indépendant, parce qu'un indépendant qui travaille avec un grand groupe, il est soumis aussi à toutes ces contrôles, grosso modo, de la direction des achats, qui va lui dire « remplissez-moi ce fichier ». Et donc, comme on a l'habitude de travailler ensemble avec Betty, comme tous nos autres partenaires de confiance depuis maintenant 20 ans, je suis venue trouver Betty en lui disant « on a un petit sujet pour nos clients et possiblement pour les vôtres du cabinet June, c'est aider, comment est-ce qu'on peut aider ces sociétés à rester dans le jeu, en fait, rester dans la partie. Parce que lorsque vous êtes soumis à ce type de contrainte, soit vous le voyez comme une contrainte juridique pure et dure, soit vous le voyez comme une opportunité. Oui. On a pris le parti de le voir plutôt comme une opportunité.
C'est pas une dépense, c'est un investissement.
De rester dans le jeu, exactement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on peut aider ces boîtes-là pour en mettant en fin de compte nos compétences techniques en TANA et les compétences du cabinet de June et de Betty, compétences juridiques, et de pouvoir produire notamment des documents qui peuvent être pertinents et qui peuvent permettre de répondre à une partie de ces sollicitations. On parlait tout à l'heure de la PSSI, encore un mot de jargon, la politique de sécurité des systèmes d'information. Oui. Qui peut être à plusieurs étages, c'est-à-dire quelles informations je veux bien communiquer sur la sécurité de mon système d'information, parce que ça peut donner lieu à un autre débat, qui est plus j'écris sur la sécurité de mon système, plus je mets mon système en danger, puisque si je réponds à un fichier Excel de tel grand groupe, en écrivant que j'ai mes données dans tel data center avec telle technologie, etc., j'ouvre une faille de sécurité.
Les clés de la maison.
Exactement. Donc, c'est toutes ces réflexions qu'on a aujourd'hui conjointement avec le cabinet de June et qu'on propose à nos clients et qu'on a déjà mis en place chez certains de nos clients pour les aider tout simplement aussi à répondre à des appels d'offres et pas juste à être là en cas de contrôle ou en cas de fuite de données.
Alors, c'est la question que j'allais vous poser. Ce dispositif est déjà mis en place. Ça fonctionne ?
Oui, ça fonctionne. On a beaucoup travaillé pour ça avec le cabinet June et avec nos équipes techniques. Et ça fonctionne. Donc, on a pu effectivement aider des clients et accompagner des clients dans la rédaction de chartes informatiques ou d'une donc PSSI, politique de sécurité de système d'info, parce qu'on peut la mouliner dans les IA. Mais c'est pas forcément une solution et c'est vraiment important d'avoir justement le volet d'experts techniques et experts juridiques.
Est-ce que vous arrivez à parce que ça chaque société a son propre sa propre identité. Est-ce que vous arrivez plus ou moins à standardiser ou à chaque fois il faut c'est du sur-mesure?
Non, on reste quand même sur du sur-mesure, ouais. De fait, puisque il faut quand même être en capacité de s'adapter au secteur d'activité et puis surtout au SI de l'entreprise, à son système d'information. Donc, mais disons qu'on a fait ce pari, si vous voulez, d'être en capacité de tout de suite évaluer quel va être le niveau de risque pour l'entreprise, puisque comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en fait la réglementation c'est un sujet qui est sans fin, la conformité sujet qui est sans fin. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que lorsqu'une plus petite structure, une PME ou une TPE est amenée à échanger sur des sujets de sécurité numérique et de conformité avec un grand compte, le grand compte va par exemple lui imposer une conformité totale, sauf qu'en fait, cette conformité totale, elle ne fait pas de sens. Puisque pourquoi ? Parce que la PME ou la TPE, elle est amenée à fournir un service très précis sur un périmètre vraiment restreint et donc avec un risque restreint. Mmh. Et donc, nous, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer à notre propre client et lui donner des billes pour qu'il soit en capacité ensuite de l'expliquer à ses propres clients. Donc, on va rédiger une documentation qui est conforme à la loi, mais qui répond à un périmètre restreint et à ce risque qui est, au final, restreint. Mmh. Voilà. Et c'est en ça qu'on arrive à faire quelque chose à la fois d'adapté, sur mesure, mais également pour des coûts qui sont tout à fait acceptables pour une plus petite entreprise.
Alors, puisque on parle de coûts et qu'on est dans une émission économique, vous pouvez nous donner des ordres d'idées de coûts entre ce que ça aurait coûté si vous n'aviez pas mis au point ce dispositif et ce que ça va coûter pour voilà, enfin, sauf s'il y a une confidentialité
nous, non,
dans
pas
vos,
du tout.
Dans
non,
vos,
non, non, pas du tout.
Dans vos coûts.
Pas du tout. Comme on disait, c'est fait sur mesure, donc c'est difficile de vous dire, c'est 1500, 3000 euros, etc.
En fait.
Ce qui est sûr, globalement, peut-être 3000 euros, on peut avoir la rédaction d'une politique de système de sécurité, de système d'info, pardon. En fonction du nombre d'ateliers qu'on devra faire avec le client en amont, en fonction du besoin, en fonction du risque qu'on a à couvrir. Donc c'est un coût qui reste relativement adapté à des structures de petite taille. Lorsque dans des grands groupes ou sur des beaucoup plus gros dossiers, un conseil juridique va vous en coûter peut-être...
C'est 3000 euros de l'heure. Peut-être pas. Je vois Betty qui rêve.
Non, j'aimerais bien, mais non, ce n'est pas la réalité de notre monde. Bon.
Et l'idée, c'est encore une fois de... Il y a quand même une partie effectivement standard, entre guillemets, c'est-à-dire que nous, en ayant travaillé sur les premiers dossiers avec le cabinet de June, autant vous dire qu'on n'a pas facturé le temps qu'on a passé à réfléchir et à créer cette documentation notamment et cet accompagnement, et que du coup ce coût est absorbé encore une fois par cette mutualisation au niveau des différents clients. C'est vraiment toujours dans le même esprit de dire, en fin de compte, les TPE PME, on a tous les mêmes sujets de RH, de réglementation, enfin les sujets en tous les cas transverses. On a notre expertise chacun et après on a des sujets transverses d'informatique, de RH, de juridique. Donc c'est vraiment essayer d'avoir effectivement un coût pour l'entreprise qui soit possible, oui, notamment quand on répond à un appel d'offres. On peut absorber parfois 3000 euros au regard de l'appel d'offres sur lequel on concourt.
Alors justement, pour revenir sur l'appel d'offres, le dispositif que vous avez mis en place est donc accepté par l'organisme qui lance son appel d'offres. Parce que c'est ça le but.
Ça dépend des appels d'offres, j'ai envie de répondre.
Oui, tout à fait. Il n'y a pas d'acceptation, c'est-à-dire que nous, on travaille plutôt en sous-marin. C'est plutôt des clients qui viennent nous voir en disant on sait qu'on n'est pas très bon sur le sujet réglementaire, sur le sujet sécurité. On a notamment dans le viseur deux appels d'offres qui sont significatifs pour notre entreprise. À la lumière de ce qu'on vous présente, qu'est-ce qu'on doit faire prioritairement? Et puis du coup, nous, on travaille dessus, en fait. Après, de toute façon, ce qu'on va être amené à rédiger, ça va être vraiment de la documentation interne, documentation qui va pouvoir être réutilisée pour l'entreprise pour d'autres sujets ou pour d'autres appels d'offres. Donc il n'y a pas le tampon Antana ou il n'y a pas le tampon June sur la documentation. C'est vraiment un processus interne en fait.
Ouais, je comprends. Voilà. Alexandre, vous vouliez ajouter quelque chose, non? Tout est dit. Je vous propose qu'on marque une nouvelle pause et puis là, c'est avec, on va donner envie d'aller chez Antana avec Johnny Hallyday et son titre L'envie.
Retourne l'obscurité, puis la lumière. Qu'on retourne la faim, la soif, puis un festin. Qu'on m'enlève ce qui est bas et secondaire. Que je retrouve le prix de la vie enfin. Qu'on me donne la peine pour que j'aime dormir. Qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme. Pour que j'aime ma terre, qu'on me donne l'exil et qu'on m'enferme maintenant pour rêver à des femmes. On m'a trop donné, bien avant l'envie, j'ai oublié des rêves et des merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre et le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie. L'envie d'avoir envie et qu'on relève ma vie. Qu'on me donne la haine pour que j'aime l'amour. La solitude aussi pour que j'aime les gens. Pour que j'aime le silence, qu'on me fasse des discours et toucher la misère pour respecter l'argent. Pour que j'aime être sain, vaincre la maladie. Qu'on me donne la nuit pour que j'aime le jour. Qu'on me donne le jour pour que j'aime la nuit. Pour que j'aime aujourd'hui, oublier les toujours. On m'a trop donné, bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre, et le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir envie, et qu'on allume ma vie. On m'a trop donné, bien avant l'envie. J'ai oublié les rêves et les merci. Toutes ces choses qui avaient un prix, qui font l'envie de vivre, et le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir envie, qu'on relève ma vie.
IDFM 98 FM.
C'est toujours IDFM Radio, l'économie en direct avec à mes côtés Alexandre Bourré, fondateur d'Antana, société spécialisée dans la sécurité informatique, Marion Laget, co-dirigeante d'Antana, et Betty Svez, avocate du cabinet June, un cabinet spécialisé en droit du numérique et des technologies. Alors, on a un petit peu échangé pendant cette pause et moi, la question que je me posais, Marion, enfin à tous les trois, mettre en place le dispositif dont vous nous avez expliqué tous les volets, c'est faire d'abord un audit de l'entreprise. Et puis, quels sont les premiers conseils que vous donnez immédiatement avant de mettre en place le dispositif, peut-être, Marion ou Alexandre? Alexandre.
Alexandre, allez, vous avez pas le, pris la parole depuis un moment. Le premier conseil, ça sera avant tout la sauvegarde.
Oui.
C'est obligatoire. C'est sauvegarder, monitorer, surveiller que ces sauvegardes fonctionnent. Mais comme on parle de monitoring, je vais en profiter. Monitorer aussi son système d'information, toute sa partie infrastructure informatique. Avant de la journalisation, ce qu'on appelle des logs aussi, c'est garder les logs au maximum. Je crois que la réglementation, il faut garder les logs pendant à peu près un an, en tout cas ne serait-ce que sur Internet. Donc garder l'historique de ce qui a pu se passer dans le système. Formation, campagne de sensibilisation, formation obligatoire. Bien évidemment, on sécurise un peu le château, donc on met un firewall, on met des ponts-levis, on met des choses comme ça, et on essaie de bien les configurer dans la mesure du possible. Je disais tout à l'heure antivirus, même si on n'appelait plus ça un antivirus, mais un équivalent qui s'appelle un endpoint, EDR, XDR, tout ce que vous voulez, mais il en faut un. Comme je dis souvent aux gens, vaut mieux un antivirus, un EDR gratuit, Windows Defender, j'ai le droit de le citer, vaut mieux déjà l'activer que de ne rien avoir du tout. Ça fait déjà le job sur certaines choses. Après, ça dépend jusqu'où vous voulez aller. Donc, des outils, il y en a beaucoup, mais journalisation, firewall, sauvegarde externalisée, sauvegarde interne, sauvegarde offline. Il y a plein de modèles de sauvegarde différents à avoir en parallèle. Beaucoup de gens.
C'est-à-dire, c'est sauvegarde sur un disque dur ou?
Ça va être sauvegarde sur des systèmes de stockage qui vont être en local pour accélérer la restauration des données si on a besoin de la restaurer, mais aussi une sauvegarde déconnectée pour que si vous faites pirater, que la personne ne puisse pas remonter sur ces systèmes-là, que la sauvegarde soit hors des cas de vos bureaux, de vos sites, parce que si vous brûlez toutes vos données,
ça
n'a pas de sens. Que ces sauvegardes soient testées régulièrement, parce que souvent on fait confiance au système. Là, ça marche, ça tourne, j'ai une sauvegarde. Mais le problème, c'est que si vous testez pas vos sauvegardes, c'est comme si vous en aviez pas. Ça n'a pas de sens. Et après, si on se fie à ce qui se passe réellement au niveau des attaques, dans les grosses sociétés, je crois, je vais peut-être me tromper au niveau des jours, mais on met entre 180 et 200 jours, je crois, pour se rendre compte quand quelqu'un a vraiment une attaque. On parle de sociétés un peu plus conséquentes. Parce que maintenant, les attaquants sont patients.
Presque un an, quoi.
Exactement. Ouais. Et donc, si on veut repartir sur des systèmes sains en théorie, faudrait réussir à avoir plus que le temps de détection de sauvegarde pour avoir des données saines. Dans les faits, c'est pour la TPE-PME, c'est très compliqué parce que la sauvegarde coûte presque beaucoup plus cher que la production. Mais pour autant, on essaie de faire au mieux pour ça. Donc il faut au minimum une sauvegarde en local, une sauvegarde externalisée, une sauvegarde sur quelque chose de déconnecté. Tester très régulièrement ça, formation, journalisation, monitoring, surveiller tout. Et j'en oublie, il y en a tellement. Et en fait, par exemple, pour la partie monitoring et journalisation, le CIEM et le SOC servent à ça. C'est eux qui vont en partie vérifier si tout se passe bien. Le SOC ne fait pas de monitoring en tant que tel. Le SOC va vérifier ce qui va pas. Mais pour ça,
Et donc, ils vont envoyer un message s'il y a quelque chose.
Soit ils vont agir, soit ils vont. Il y a plein de moyens de réponse. Ça va être soit ils ont une délégation, donc ils vont pouvoir interagir sur les systèmes. Soit ils vont dire, non, on n'a pas le droit d'interagir pour diverses raisons contractuelles. Ils nous remontent l'information et c'est nous qui agissions. Mais déjà, grâce à ces outils-là, ça nous permet d'avoir une visibilité un peu plus périmétrique.
Merci Alexandre. Marion, combien de temps passez-vous chez un client pour mettre en place ce dispositif dont vous nous avez parlé?
Alors sur les volets uniquement juridiques et conformité ou d'une manière générale,
pour vraiment arriver à mettre en place tout ce qui
un peu tous les volets
qui tout ce que vous, vous considérez utile pour que la société soit protégée.
Ah, c'est une question qui n'est pas facile parce que c'est très aléatoire.
Oui. Oui.
Non, ça dépend des cas. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que il y a une première étape qui est vraiment une étape de réflexion qui est très globale, qui passe forcément par un audit, mais pas forcément un audit uniquement technique, mais aussi justement juridique. Peut-être que Betty reviendra dessus. Et surtout de se poser des questions sur le risque, sur la gestion du risque, parce que finalement, je suis entourée de deux experts, donc expert juridique pour Betty et l'expert technique pour Alexandre, mais il y a aussi une réflexion à avoir au niveau gouvernance et au niveau très global. Et donc, cette réflexion peut prendre plus ou moins de temps. C'est pour ça que répondre à la question n'est pas forcément évident. Mais c'est vraiment de dire, finalement, mon risque technique, où est-ce qu'il est? Quelle solution technique je mets en place? Et mon risque juridique et commercial, puisqu'on en a parlé un petit peu en amont, c'est-à-dire que lorsqu'on respecte pas des contraintes de conformité ou autres, on a aussi un risque de se décrocher d'un point de vue commercial. Et donc, comment est-ce que je gère et avec quels outils j'ai pour gérer ces différents risques? Donc la partie technique, Alex a répondu. Et puis après, il y a la partie juridique où effectivement, on a cet accompagnement qu'on propose pour aider les sociétés à construire des éléments de réponse et notamment la documentation comme la charte informatique, la politique de sécurité des systèmes d'information. Et ça, ça peut aller relativement vite à partir du moment où on fait un atelier avec le client. Après, on a toute une phase, nous, d'analyse, de rédaction, de consolidation, une phase de relecture avec le client pour qu'on puisse être sûr d'être bien adapté à son besoin, et puis ensuite, bien entendu, les livrables. Mais ça peut aller relativement vite. Quelques semaines, jours, semaines.
D'accord. Oui, quand même.
Comme on est une petite structure, nous aussi, on est assez agile, et donc on sait assez efficace, et on sait... On s'est adossé à des partenaires qui ont les mêmes valeurs que les nôtres et qui travaillent avec à peu près les mêmes.
Ça, vous travaillez en bonne.
Ce sens du service client assez fort qui fait qu'on est capable de se mettre en stand-by sur certains sujets pour avancer quand le livrable est urgent, notamment dans le cas d'un appel d'offres, si un client a besoin d'aide, on sait quand même se libérer.
Vous savez le y répondre efficacement. Et alors, la cible de vos clients, quelle est-elle, compte tenu de ces dispositifs aujourd'hui?
Tous les clients qui ont besoin d'accompagnement, que ce soit pour la partie technique ou la partie, comme on disait tout à l'heure, plus juridique sur mise en conformité, globalement, sont des TPE, PME. Ça peut être des sociétés dans n'importe quel secteur d'activité. On a une société qui était plutôt dans la production. On en a d'autres qui étaient des gros cabinets d'avocats qui, pour le coup, travaillent eux-mêmes avec des structures un peu plus importantes. Des plus petits cabinets d'avocats aussi, parce que vous pouvez avoir dans vos clients un grand compte qui va vous demander de répondre à certaines réglementations. Donc, j'ai envie de dire tout type de clients pour cette partie, en tous les cas, technico-juridique.
Alors, pour sortir un tout petit peu d'Antana, on a tous entendu parler de ces attaques, ces cyberattaques avec des hôpitaux, l'Assemblée nationale, enfin des gens dont on peut penser qu'a priori, ils ont mis en place tout le dispositif anti-feu, comme vous dites, Alexandre?
Pas nécessairement, malheureusement, pas nécessairement. Si vous prenez les attaques des hôpitaux, j'en ai en tête, l'attaque n'a pas été frontale, elle est passée par un partenaire.
Donc, c'est ce que vous nous
comme maintenant
tout,
est interconnecté, elle est passée. Ils avaient bien mis. Je connais très bien la société qui s'occupait de la partie firewall, donc ce qui est la porte d'entrée. Sauf qu'ils avaient des partenaires qui avaient via des machines connectées, qui passaient outre les sécurités du firewall parce qu'ils avaient leur propre lien internet, ainsi de suite. Et ils sont passés. Pas par la porte, ils sont passés par la fenêtre, c'est un partenaire qui était incriminé là-dessus. Ils ont pas mal de sécurité, mais sauf que le spectre devient tellement large, et c'est là où ce qu'on disait tout à l'heure, il faut des audits, il faut auditer régulièrement les infrastructures pour savoir ce qu'on a chez soi. Alors nous, on gère de la TPE PME, c'est donc un peu plus simple puisque il est très rare que des clients, on a quelques clients qui sont un peu plus conséquents, qui gèrent des choses un peu de leur côté, mais nos clients qui sont entre 50 et 100 collaborateurs, généralement tous les points d'entrée passent par nous. C'est-à-dire que ils disent voilà, on va avoir tel outil, comment on l'incorpore. Donc on a ce savoir-là. Il y a d'autres clients, il y a des gens qui ont des appareils connectés dans les systèmes. on sait qu'ils existent, on les isole un peu, mais pour autant, on ne sait pas ce qu'ils font avec. Donc on les surveille d'un œil, mais en fait on connaît même pas le bon comportement. Donc
mais parce que ils ne savent pas eux-mêmes, ou c'est parce qu'ils ne veulent pas se livrer sur ce domaine.
Quand vous êtes dans une société de production, faisons industriel par exemple, il y a sur je dis des chiffres bêtes, il y a peut-être 15% d'administratifs, d'effectifs d'administratifs, 40% c'est de la production pure et dure, c'est des gens qui sont sur la chaîne qui travaillent. Après, il y a des commerciaux, ainsi de suite. Chacun voit par le bout de sa fenêtre. Mais le dirigeant n'a pas nécessairement une vision globale de tout le système d'information qui permet de faire fonctionner ça. Faire fonctionner une usine, il y a plein de choses, d'objets connectés dans cette usine. S'ils sont pas bien isolés ou bien maîtrisés par les éditeurs, parce que même si la téléphonie, du copieur, des objets connectés dans une usine, on a l'impression qu'il y a une prise réseau, donc c'est de l'informatique, oui. Il y a une base commune, mais pour autant, il y a quand même une expertise. Chacun doit maîtriser son outil. Et nous, parfois, il nous arrive d'avoir des outils connectés chez des clients qu'on ne connaît pas, parce qu'ils nous ont dit « il nous faut ça ». Oui. On l'isole, on essaye de l'isoler. Mais pour autant, on ne sait pas à quoi ça sert, mais on dit « il faut ça ». Ok, mais c'est là où on en vient à dire « bon, mais pourquoi il vous faut ça ?» Donnez-nous une explication pour que vous sachiez à quoi ça sert et que nous après on le documente en conséquence réagir. Et le surveiller si besoin. Voilà.
Alors Alexandre, toujours, on parle aussi de ces cyberattaques. Alors il y a les cyberattaques. On a parlé des hôpitaux, de structures connues. Quelles sont ces attaques? On a parlé du phishing, mais est-ce qu'il y a des attaques particulières qui sont...
Alors, j'ai pas les statistiques.
Qui sont identifiées.
Alors, je vais vous dire un chiffre, je dois pas être très loin de la vérité. 90% des attaques passent par du phishing.
Oui.
Donc, c'est la messagerie, le point d'entrée. Mmh. C'est le maillon faible, c'est le collaborateur. C'est vraiment ce biais-là. Pour autant, maintenant, on a beaucoup de clients aussi. On les sensibilise. Il y avait... c'est plus moins dans l'air du temps, mais avant on utilisait plein de clés USB, il y avait toujours des clés USB partout. Maintenant, des clients, on bloque les ports USB parce que des attaques passent aussi par des objets connectés.
Oui. Une clé USB qu'on vous offre.
Alors généralement, on vous l'offre pas, on la laisse traîner, les gens. Oui. Comme ce qu'on disait tout à l'heure, ils sont curieux, donc ils la prennent, ils la branchent. Mais bien sûr. Mais l'humain est curieux. Oui. Donc il y a ça, il y a, les SMS maintenant, il y a les faux appels téléphoniques. Nous-mêmes, Marion a déjà eu ça, un faux support de la banque donc même si c'est notre métier, il y a ça. Autre exemple de, alors c'est une attaque un peu différente, c'est l'usurpation d'identité. Nous on a eu ça aussi sur usurpation au cabis.
Ah oui.
Et c'est là, on fait de la sécurité informatique, mais tous nos documents sont en libre service sur le greffe ou sur paper. Donc les gens ont pu ouvrir des sociétés en mon nom, ont pu ouvrir des comptes bancaires en mon nom.
Personne n'est à l'abri en fin de compte.
C'est ça, oui, mais je me rends compte que vous nous avez quand même cité pas mal de, vous nous avez parlé de l'arnaque à la voix, de la saturation aussi des serveurs.
Oui, alors ça, les attaques des DOS, oui, alors ça, il n'y a pas 30 ans, on a publié quelque chose. Il y a une société qu'on peut citer qui est Cloudflare, qui est un gros faiseur du monde de l'Internet, qui permet de sécuriser, d'accélérer, qui a eu malheureusement quelques incidents récemment. Faut savoir qu'une société comme cette boîte-là, qui a un incident, c'est 20% de l'Internet mondial qui s'arrête. Donc c'est dingue de se dire ça, mais on est quand même vachement tributaire de ce genre de choses. Et dans leur petit malheur, ils ont eu un bug suite à une mise à jour pour corriger une faille de sécurité. Donc c'était un peu pas de chance, mais donc c'est maintenant on est tellement interdépendant de tout. On est tous chez Microsoft, on est tous. Il faut juste être prudent, il y a beaucoup de bon sens souvent.
Oui.
Mais c'est la prudence, la méfiance. C'est vrai que je fais pas mal de campagnes cyber au niveau des sociétés. J'aime bien dire que si je ressors et que vous êtes parano, c'est que j'ai fait mon job.
Ah mais oui,
faut être un petit peu parano pour essayer de survivre dans le monde informatique, je trouve, au niveau de la cyber.
Moi, j'avais participé à une conférence, vous sûrement aussi, mais on se connaissait pas autant qu'aujourd'hui. C'était Plaine Vallée qui avait fait une conférence sur la cybersécurité il y a bien 3 ans.
À Enghien.
Oui.
Oui, c'était une table ronde, j'étais là avec les gens de l'ANSSI, j'étais là.
Et donc justement, l'ANSSI disait que faut pas vous poser la question de comment on va vous cibler, puisqu'il parlait de robots renifleurs qui sont là tout le temps, mais c'est quand?
Oui, tout
donc,
à fait.
On est tous amenés à être un jour.
On l'a tous été déjà au moins une fois. On a tous reçu des faux mails, des faux SMS, des choses comme ça. Maintenant, on n'a pas nécessairement tous cliqué dessus. Ouais. Voilà, on n'a pas tous eu des faits de bord conséquences. Mais elle était bien cette table ronde. Ouais. C'était très intéressant.
Et je sais aussi que c'est les notaires qui sont extrêmement piratés au niveau des RIB. C'est-à-dire que des hackers arrivent à récupérer des RIB et modifier le RIB, ce qui fait que quand les transactions se passent, eh bien l'argent n'arrive pas au bon endroit.
Alors maintenant, les données ont une valeur. Toutes les données ont une valeur. Un passeport, une copie d'un passeport, une copie d'une pièce d'identité, une copie d'une carte d'identité. Il y a des prix, il y a des tarifs que vous pouvez trouver sur le Darknet. Alors, c'est plus ou moins. Mais par exemple, vous avez des RIB en circulation. Malheureusement, on sait que la plupart des opérateurs français se sont quasiment tous fait pirater. Je ne veux pas citer le nom, bref, il y a opérateur français, où il y a les RIB qui ont fuité, il y a toutes les informations, et ça n'a pas loupé. Au bout de quelques mois, les gens recevaient des mails en disant, attention, ça veut dire que les hackers, maintenant, ont des données ultra sensibles et très précises de vous, qui vont rajouter une couche sur le fait de se faire usurper. Ah, mais s'ils ont cette information-là, c'est qu'ils me connaissent, c'est que c'est vraiment eux. Mmh. Et donc voilà, nous, on a déjà eu des gens qui ont utilisé notre RIB pour payer des lignes téléphoniques.
Ah oui. Ça vous est arrivé?
Oui. Alors, il n'y avait pas encore tous les CEPA, les réglementations, mais ça existe.
Bon, donc, il faut être vraiment vigilant. Betty, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret où votre collaboration a permis à une TPE-PME de se mettre justement en conformité ou de renforcer sa sécurité, alors qu'au départ, elle n'était pas forcément consciente de son manque?
Alors un exemple concret, je ne sais pas si j'ai un exemple, mais en général, on vient toquer à notre porte parce que une entreprise est challengée par ses partenaires ou par ses prospects en réalité, et elle se constate que non seulement elle a aucune conscience des enjeux liés à la sécurité numérique, mais également elle se rend compte qu'elle est désarmée d'un point de vue documentation. Donc souvent c'est ça, le client nous contacte sur la base de recommandations d'autres clients ou sur la base de recommandations par exemple d'Antana, je dois répondre à un appel d'offres, je dois pouvoir travailler avec un partenaire, et le sujet de la conformité est un point bloquant. Donc qu'est-ce que je peux faire à minima? Et donc là, en fonction du dossier, en fonction du besoin précis, ben du coup, on va faire une évaluation et on va travailler avec eux, avec le client, de concert. Soit on va améliorer leur contrat, soit on va rédiger leur documentation plutôt générique, soit on va tout simplement leur fournir un certain niveau de conseil, on va leur expliquer mais finalement quelles sont leurs obligations, et ils auront ensuite peut-être un meilleur discours, voire même un meilleur discours commercial, parce qu'ils auront compris la réglementation. Donc, et on les a aidés pour la bonne et simple raison qu'on les a accompagnés et qu'ils ont soit la documentation qu'il faut, soit ils ont plus confiance en eux parce qu'ils ont compris les enjeux.
C'est ça, ils se sentent moins vulnérables.
Ils se sentent moins vulnérables, oui, tout à fait.
Alors, Alexandre et Marion nous ont dit qu'il fallait d'abord sauvegarder, hein, c'est peut-être le premier conseil à retenir. Et vous, quand un dirigeant reçoit un questionnaire RGPD ou NIS 2 et qu'il ne sait pas par où commencer?
Justement, alors là on a un vrai rôle de conseil. Déjà, on va être en mesure d'une part de lui expliquer quelles sont les questions, parce que souvent il ne comprend pas qu'on lui pose, et il ne comprend pas à la fois les questions qu'on lui pose, et puis surtout il ne comprend pas les conséquences pour l'entreprise. Oui. Donc là, on a un vrai rôle de conseil et d'accompagnement. Et puis ensuite, on va être en capacité, tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous parlais vraiment de périmètre et de risques. à délimiter, eh ben on va être en capacité de lui expliquer, sur ce volet-là, vous n'êtes pas concerné, sur ce volet-là, vous n'êtes pas concerné, sur ce volet-là, vous êtes concerné, et vous devez pouvoir montrer patte blanche. Et donc, on va finalement cibler un petit peu dans le questionnaire ce qui est impactant pour l'entreprise, ou finalement ce qui ne l'est pas, puisqu'on se rend compte qu'en fait, les grands comptes, ils fournissent ce type de questionnaire à l'ensemble des entreprises, peu importe sa taille, peu importe son secteur d'activité, et peu importe le service fourni ou surtout le niveau de sensibilité de la donnée sur laquelle va travailler l'entreprise. Et si le niveau de sensibilité n'est pas le même, l'enjeu n'est pas le même. Donc voilà.
Merci à tous les trois parce que bon pour votre vos explications claires et puis dans un langage quand même à part quelques acronymes
mais finalement dans tous les métiers il y a des acronymes mais leur nôtre c'est assez à part.
Oui, mais dans un langage quand même accessible hein, parce que souvent c'est aussi le problème de ce domaine de l'informatique qui fait un peu peur, vous l'avez bien décrit. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée à laquelle vous auriez aimé répondre?
Moi, j'ai juste un conseil. Hein. Oui. N'enfouissez pas ces sujets et traitez-les, prenez-les à bras-le-corps.
Pas les ignorer.
Ça rejoint un peu ce que vous êtes en train de dire, Jacqueline, c'est-à-dire que on peut simplifier ces sujets et il y a des solutions qui sont à la mesure de chacun. Mmh. Et la pire erreur, ce serait de botter en touche et de dire le RGPD, NIS 2, j'ai pas envie de traiter, j'ai bien d'autres choses à faire, parce que souvent on pense qu'on a bien d'autres choses à faire, mais ça peut très vite nous mettre en dehors du jeu. Une société peut se retrouver sur le banc de touche pour des sujets de sécurité numérique, que ce soit juridique ou technique. Et donc, si j'ai vraiment un conseil, c'est n'enterrez pas ces sujets. Au contraire, faites-les émerger, traitez-les. Et il y a des boîtes pour vous accompagner sur ces différents volets.
Oui, parce que j'imagine que dans le pire des cas, ça peut même aller jusqu'à la disparition de la société, si c'est très grave.
Oui, il y a effectivement deux conséquences préjudiciables. Il y a déjà d'une part le volet plutôt technique, c'est si on ne met pas des choses en place, on risque un piratage informatique et ce piratage informatique peut déboucher sur une désorganisation totale de l'entreprise, voire même une disparition de l'entreprise. Mmh. Et puis aussi, si on ne met pas des choses en place, on risque aussi et surtout une sanction.
Oui, bien sûr. Oui.
Une sanction parce qu'on ne respecte pas la réglementation. Donc quelque part, il y a cette double peine éventuelle qu'il faut garder en tête. Alors l'objectif, c'est pas de faire peur aux entreprises, mais c'est de leur dire que ils ont tout intérêt à mettre en place des choses. Et puis, comme le disait très bien Marion tout à l'heure, il faut voir ça plutôt comme un levier, plutôt comme une opportunité. Garder en tête que mettre en place un certain nombre de mesures, ça permet de rester compétitif. Et c'est le nerf de la guerre.
Merci infiniment. Alors moi, on retiendra que la cybersécurité et la conformité réglementaire ne sont pas des options, même pour les petites structures, et que des solutions existent avec des experts comme vous, Antana et June, pour les rendre accessibles et adaptées. Pour vous contacter, que faut-il faire, Marion? Si des auditrices et auditeurs nous écoutent et ont pris conscience de leur vulnérabilité.
Alors, vous prenez votre téléphone et vous composez le 01 83 64 13 10 parce qu'on aime encore avoir nos clients au téléphone, figurez-vous. On ne passe pas que par des chatbots. Blague à part, site internet, Instagram, LinkedIn, Facebook et quand même le téléphone.
Instagram.
Et donc, pareil pour June.
Pareil, c'est identique. Voilà, site internet, téléphone, LinkedIn, on est toujours joignable.
Merci infiniment. Alexandre, merci beaucoup. Un mot peut-être, le mot de la fin?
Sauvegarde.
Sauvegarde, ça restera le mot d'ordre. Donc merci en tout cas à tous les trois pour ces éclairages passionnants. Et puis on voit votre collaboration, cette belle synergie qui existe. Et je ne doute pas que vos dispositifs doivent être très, très efficaces et performants. Merci à vous.
Merci Jacqueline. Beaucoup.
Merci Jacqueline.
Merci
Francky pour la technique. Merci à vous tous d'avoir été à notre écoute. Cette émission vous a plu, alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez-la en podcast sur le portail de la radio 98.fr. Belle journée et belle semaine. À vendredi pour un nouveau numéro de l'économie en direct. Mais restez à l'écoute, surtout de IDFM Radio pour découvrir nos autres émissions. À bientôt.
IDFM Radio, 98 FM.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Bonjour à tous, c'est Laetitia et Myriam sur IDFM Radio. On vous donne rendez-vous pour l'émission Femmes en Lumière, tous les mardis à 18h.
Une émission dédiée aux femmes inspirantes et à leur parcours, l'occasion de mettre sous les projecteurs les femmes de notre région et d'ailleurs.
À très vite sur IDFM Radio.
Dans les moments importants de votre vie, vous avez besoin d'un repère solide. Que ce soit pour défendre vos droits, protéger votre famille ou accompagner votre entreprise, un avocat du barreau du Val d'Oise est à vos côtés. Les avocats du Val d'Oise, ce sont des professionnels formés, indépendants et à l'écoute. Que vous soyez Argenteuil, Cergy, Sarcelles ou Pontoise, il y a toujours un avocat près de vous. Retrouvez les dates et les lieux de consultation gratuites destinés aux particuliers et aux entreprises sur le site du barreau du Val d'Oise. Barreau du Val d'Oise, l'expertise juridique à votre service.